VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Des milliers de personnes ont réservé aujourd'hui un accueil chaleureux à l'aéroport de Lubumbashi à Moïse Katumbi, opposant congolais de retour d'exil et qui avait quitté il y a 3 ans, jour pour jour, la République démocratique du Congo. Une foule en liesse donc vêtue de blanc s'est massée à l'aéroport de Lubumbashi où l'ancien gouverneur du Katanga s'est posé en jet privé en provenance d'un pays d'Afrique. Moïse Katumbi a confié hier à VOA Afrique qu'il comptait prendre sa place sur l'échiquier politique de la RDC.
Les Congolais savent ce que je fais pour le Congo. Mon bilan, surtout quand j'étais gouverneur de la province du Katanga. Ils ont vu le travail que je fais, ils ont vu le résultat, le bilan. Quand je rentre, c'est pour être avec le mien, consoler le mien qui ont vécu l'enfer. Vous savez ce combat de l'opposition. Mon frère Félix, mon frère Martin, mon frère Jean-Pierre Bemba, nous nous sommes battus pour qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution, pour ne pas avoir un troisième mandat. Donc le plus important pour nous, c'est l'avenir de notre pays.
L'opposant congolais Moïse Katumbi, pendant ce temps, la présidence de la République à Kinshasa a annoncé une déclaration importante qui pourrait concerner le nom du premier ministre du chef de l'État, Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier. Ce futur chef du gouvernement sortira des rangs du Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila. Sa nomination a fait l'objet de nombreuses discussions entre M. Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Le point avec Thierry Kabondi de Top Congo FM, nos stations partenaires dans la capitale congolaise.
Nous avons la fumée blanche. Rendez-vous la semaine prochaine, a dit le week-end dernier Félix Tshisekedi pour évoquer la nomination prochaine du Premier ministre aux 15 ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne accrédités à Kinshasa ainsi qu'à celui du Canada. C'était lors d'un déjeuner diplomatique institué par le président de la République dans le but, selon un communiqué, de promouvoir le rapprochement entre la RDC et ses partenaires. Ces derniers mois, Félix Tshisekedi a rencontré à plusieurs reprises l'ancien président de la République Joseph Kabila pour avancer dans les discussions concernant la nomination du Premier ministre. Et après autant de rounds de discussion entre le chef de l'État et son prédécesseur, chef de la majorité parlementaire, après avoir recalé plusieurs noms lui proposés par le Front commun pour le Congo, Félix Tshisekedi semble avoir fini par accepter le profil d'une personnalité qu'il devrait nommer cette semaine, près de 4 mois après son avènement à la tête du pays. Devrait rapidement suivre la composition du gouvernement qui est également en discussion entre les proches de Tshisekedi et de Kabila. Kinshasa, Thierry Kambondi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Célébration ce lundi de la fête nationale du Cameroun placée sous le signe de l'unité. Mais nous, dit notre correspondant sur place, certains Camerounais ne croient plus à l'unité de leur pays à cause, je cite, des pesanteurs sociopolitiques. C'est notamment le cas à Nbenga, ville située à 227 km de Yaoundé, dans la région du littoral, une ville francophone frontalière de la région anglophone du sud-ouest où s'est rendu Emmanuel Jelenta.
MRC, changeons d'appel à la paix.
Les militants du MRC en Banga préparent la cérémonie d'inauguration du siège de leur parti. Pas question pour eux de participer aux activités de la fête de l'unité. D'ailleurs, le mot d'ordre du MRC cette année est le boycott du défilé le 20 mai. François Xavier Yankoua, président communal du MRC en Banga.
Le défilé de 20 mai, la fête nationale, c'est une unité. Qui lie Cameroun oriental, Cameroun occidental? Quelle est la société que nous aurons pour fêter le 20 mai? Nous ne pouvons pas monter au-dessus des carrés de 1850 morts.
La crise post-électorale a aussi créé une faille sur la question de l'unité nationale, explique un autre militant du MRC sous anonymat.
Je ne sais pas pourquoi je dois être concerné, puisque nos militants et notre leader, le professeur Maurice Kamto, est en prison de Koningi depuis un certain temps. Si aujourd'hui nous acceptons que nous allons décider, c'est comme si peut-être nous cautionnons sa prison.
En Banga, la crise anglophone se fait beaucoup sentir. La ville a accueilli un grand nombre de ressortissants des régions anglophones. De nombreux déplacés internes sont venus s'installer ici, au quartier 3, en Banga. Roger est l'un d'eux. Il a quitté Bamenda, dans le nord-ouest, depuis un an. Il est conducteur de moto-taxi.
Depuis que je suis ici, je dois emprunter la moto à 2500 francs par jour chez des amis pour travailler. Mais je ne parviens même pas à trouver ces 2500. Avec cette crise anglophone, je ne sais pas quoi faire parce que nous souffrons réellement ici.
Cette souffrance, des résidents de Banga la vivent au quotidien. C'est le cas d'un conducteur de moto-taxi.
Depuis que cette crise anglophone a commencé là, quand on n'arrive même plus à travailler, la nuit, on n'arrive plus à travailler parce que la police fait la patrouille. De 21h jusqu'à l'aube, on arrête.
Vraiment, il faudrait que le chef d'État essaie un peu de voir notre problème. Parce que ça ne va pas, vraiment. Nous sommes vraiment des responsables. Le dehors est dur. Quand tu sors le matin pour rentrer avec 2000 francs ta part, ce n'est pas facile.
C'est dans ce contexte que les autorités de la ville ne cessent de multiplier les messages de sensibilisation sur le vivre ensemble. Des messages qu'une frange de la population dit accepter.
Après l'arrivée de notre sous-préfet, un grand preneur de l'unité de vivre ensemble. Banga, c'est un autre monde. Vous allez trouver les gens de tout horizon qui vivent en convivialité, dans la sympathie.
Malgré le problème de sécurité, tout se passe bien. Les autorités ont pris toutes les dispositions pour que chacun se sente comme chez soi.
La fête nationale a été instituée le 20 mai 1972 pour sceller l'unité et promouvoir le vivre ensemble. Deux notions qui sont aujourd'hui sujets à débat, 47 ans plus tard. Emmanuel Jumtap, Mbanga, pour VOA Afrique.
L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est à nouveau réapparu devant un tribunal pour plaider l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. Jusqu'à vendredi, la haute cour de Pietermaritzburg doit entendre les arguments du parquet, décidé à examiner le cœur du dossier et les avocats de l'ex-chef de l'État qui dénoncent des vices de procédure et un procès politique. Jacob Zuma est accusé d'avoir touché de l'argent du groupe français de défense Thales lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. Les militaires et les chefs de la contestation au Soudan reprendront ce soir les négociations marathon entamées la veille sur la composition d'un futur conseil souverain de transition. Plus d'un mois après le renversement par l'armée du président Omar el-Béchir, les généraux insistent pour y obtenir une majorité de sièges, tandis que les leaders de la contestation veulent limiter la présence des militaires et placer un de leurs à sa tête. 12 djihadistes présumés ont été tués lors d'opérations de police près du Caire au lendemain d'un attentat à l'explosif contre un bus de touristes qui a fait 17 blessés à proximité des pyramides de Gizeh. Le communiqué du ministère égyptien de l'Intérieur n'établit aucun lien direct avec l'attaque contre un bus de touristes survenu donc dimanche près de l'emblématique site des pyramides de Gizeh, qui n'a pour l'heure fait l'objet d'aucune revendication.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Ukraine, Volodymyr Zelensky a été investi aujourd'hui chef de l'État. Le nouveau président a annoncé dans son discours d'investiture la dissolution du Parlement ukrainien, qui lui est largement hostile, convoquant du coup des législatives anticipées sans attendre le scrutin prévu jusqu'ici en octobre. Il a par ailleurs déclaré que sa première tâche était d'arriver à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine où un conflit meurtrier oppose depuis 5 ans l'armée ukrainienne à des séparatistes pro-russes. L'Inde a conclu hier son vote marathon de 6 semaines pour les législatives qui décideront de la reconduction ou non du premier ministre nationaliste Narendra Modi à la tête de la démocratie la plus peuplée du globe. Les précisions avec Fatouma Kalala.
Le chef du gouvernement sortant espère décrocher un deuxième mandat de 5 ans. Les urnes livreront leur verdict ce jeudi, jour du dépouillement. La plupart des sondages publiés après la fermeture des derniers bureaux de vote hier prévoient une majorité parlementaire à la coalition sortante, emmenée par Narendra Modi et son Bharatiya Janata Party. Principale formation d'opposition, le Parti du Congrès, conduit par Rahul Gandhi, l'héritier de la dynastie Nehru Gandhi, serait en progression, mais pas suffisamment pour espérer pouvoir former le gouvernement. Les études d'opinion sont toutefois notoirement peu fiables en Inde, pays d'1,3 milliard d'habitants. Environ 900 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes entre le 11 et le 19 avril.
Merci Fatouma. Le président américain Donald Trump a menacé l'Iran de destruction en cas d'attaque contre les intérêts américains, alors que les relations entre Téhéran et Washington sont extrêmement tendues depuis le rétablissement de sanctions économiques américaines en novembre dernier. Les États-Unis ont annoncé le déploiement dans le Golfe du porte-avions Abraham Lincoln et de bombardiers B-52, invoquant des menaces de la part de l'Iran. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.